Une des choses que j'ai retenues au cours de notre parcours à bâtir sur du solide, et oui, ça fait bientôt presque 3 ans, c'est le rappel de cette déclaration de Jésus. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et bien entendu, ce n'était pas une découverte, mais vraiment au cœur de ce parcours, ça m'a un peu fait l'effet d'une bombe. C'est une chose de considérer cette déclaration au seuil de la vie chrétienne, et c'en est une autre de la reprendre plus tard avec cette double perspective. Premièrement, quel bilan tirer des années écoulées depuis mes premiers pas avec le Seigneur? Et ensuite, quels enseignements, quelles perspectives nouvelles avant de reprendre ma marche en avant? Et cette déclaration, nous la trouvons dans deux évangiles, celui de Matthieu et celui de Luc. Et je vous propose de la restituer dans le livre de Luc qui intègre une parabole qu'on ne trouve pas dans Matthieu. Et donc ça se situe dans Luc au chapitre 12, les versets 12 à 33. Plutôt à partir du verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus lui répondit: Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Et là, cette parabole qui se ne trouve pas dans l'évangile de Matthieu, dans le même récit. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant: Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas assez de place pour rentrer ma récolte. Et voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voici quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillé. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs, elles ne travaillent et ne tissent pas. Et cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous? Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur ne s'approche pas, où la mite ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. En dehors de ce que j'ai dit de la parabole de l'homme riche qui ne figure pas dans le texte qu'on trouve en Matthieu, une autre différence essentielle entre ce récit et celui de Matthieu est la place à laquelle réside cette fameuse déclaration: Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et en effet, en Matthieu, elle est presque au début de ce passage. Ce passage qui concerne notre rapport à l'argent, au bien et à la sécurité matérielle. Et tout ce qui suit dans Matthieu décline cette déclaration en illustration, en application utile pour le croyant lors de son parcours terrestre. Et ici, au contraire, elle vient en conclusion, une sorte d'apothéose des mêmes illustrations, des mêmes applications, la différence notable étant la parabole de l'homme riche qu'on ne trouve pas dans l'évangile de Matthieu, celle à qui les terres avaient beaucoup rapporté. Et donc en Luc, cette déclaration, Luc choisit de mettre cette déclaration à la fin de ce passage, en ce sens qu'il fait converger le passage de Jésus vers cette déclaration, il fait converger vers elle cet enseignement sur l'argent, les biens matériels et la sécurité, les biens et la sécurité matérielle. Dans les deux cas, en Matthieu et en Luc, elle occupe donc une place de choix, presque un titre de chapitre pour Matthieu, une conclusion qui vient résumer l'essentiel pour Luc, mais dans les deux cas, c'est un peu la phrase clé du passage, là où ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre pays rivalise de toutes sortes de maximes relatives à l'argent, comme par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce à quoi les petits malins répondent, ben alors rendez-le. Un jour, j'ai entendu ceci, oh vous savez, l'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Et plus sérieusement, dans la bouche d'un non-croyant, j'ai entendu, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Voilà un beau prolongement dans cette parole, beaucoup de sagesse qui décrit la situation de l'homme riche. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas cité Mark Twain, et il n'a pas été très prolixe sur la question de l'argent. Mais bon, voilà, il a dit ceci, mettez tous vos œufs dans le même panier et surveillez ce panier. Ou encore Tristan Bernard, l'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'un million, il commence à se faire sentir. J'ai appris récemment que la moyenne d'âge en France pour devenir milliardaire est de 69 ans. Tout n'est pas encore perdu pour moi. Et une fois, une personne m'a bien fait comprendre combien était pesant pour elle le poids de devoir gérer toute cette fortune qu'elle s'était constituée. On avait l'impression même qu'elle enviait ceux qui n'étaient pas astreints à ce travail. Et c'est vrai, c'est une histoire vraie. Et dans un combat héroïque, elle s'est acquittée de cette tâche jusque sur son lit de mort. Bien que la sagesse populaire sache railler les méfaits de l'amour de l'argent, celui-ci, l'amour de l'argent, tient toujours une place, une bonne partie sous sa coupe, une bonne partie de l'humanité. Des siècles et des siècles de philosophie, de religion, de politique de tous bords ne parviennent pas à empêcher l'humanité de se faire prendre dans cette toile d'araignée que constitue l'amour de l'argent. Et dans ce texte et dans d'autres, Jésus ne semble pas considérer que son peuple a laissé ce problème loin derrière lui, alors même qu'il a bénéficié de siècles et de siècles d'enseignements d'une multitude de prophètes. Et donc, à notre tour, nous ne pouvons pas ne pas considérer combien est grande l'importance de l'enseignement, de l'avertissement de Jésus, malgré la foi qui nous anime, aussi sincère soit-elle. Et nous ne pouvons pas considérer non plus que les problèmes liés à l'argent et aux biens matériels sont une chose résolue depuis longtemps, une bonne fois pour toutes, dans les milieux chrétiens. Si la parole de Jésus était d'actualité parmi les Juifs de son temps, qui disposaient, comme on l'a dit, de siècles et de siècles de prophéties, de quantités de proverbes, tous plus pertinents les uns que les autres, elle demeure encore d'actualité pour nous et encore pour longtemps. Peut-être pour trouver la citation qui illustre le mieux notre passage, je vais faire parler Mère Teresa. Pour ce qui est de l'argent, dit-elle, il viendra bien. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, le reste sera donné par surcroît. quand on sait ce qu'elle a fait et avec quels moyens elle l'a fait, cette évidence biblique semble couler de source dans sa bouche. À méditer. Pour nous qui nous engageons, qui engageons notre Église dans un projet qui dépasse et de loin nos moyens financiers immédiats. Cherchez le royaume de Dieu. Et surtout, cherchez d'abord, en premier lieu, le royaume de Dieu. Il n'est même plus question ici de faire abstraction de l'argent. Et non pas non plus de faire comme s'il n'existait pas, comme si on ne voulait pas le voir, au risque de tomber dans une hypocrisie convenue et au final peut-être de renforcer des liens malsains que l'amour de l'argent sera très bien tissé pour nous en retenir prisonniers. Tout est dans le d'abord. Bien que notre texte soit vraiment dirigé à nous faire considérer notre rapport à l'argent, aux richesses, au bien de ce monde, à la sécurité matérielle, nous ne pouvons pas non plus ne pas l'élargir à tout ce qui n'entre pas dans le cadre de ce d'abord. D'abord le royaume de Dieu ou d'abord ma famille? D'abord le royaume de Dieu ou d'abord mon travail? D'abord le royaume de Dieu ou d'abord les vacances? Et même, d'abord le royaume de Dieu ou d'abord l'Église? Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de renverser l'ordre des choses, pas plus que de les tenir insignifiantes. Mais au sommet de cet édifice se tient d'abord le royaume de Dieu. Quand Jean-Baptiste dit, en parlant de Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue », on saisit tous la portée prophétique de cette parole, de cette déclaration. Mais elle a aussi une signification personnelle. Et pour moi-même, je la paraphraserai de cette manière. Parlant de Jésus, je dirais « Il faut qu'il croisse en moi et que en moi, ego diminue. » Ego, ce mot grec, qui a donné égoïsme, égocentrisme. Ego, ce boulimique de temps, d'attention, de reconnaissance, de plaisir, de richesse. Ego qui veut trôner sans partage au sommet de nos vies. Ego qui a rompu le lien avec mon Créateur alors que celui-ci me voulait heureux de vivre en harmonie avec lui et m'en avait donné les moyens, ne demandant qu'une seule chose en retour, mettre en lui mon plaisir. Non, chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas une chose nouvelle. C'est pas une chose, chercher d'abord le royaume de Dieu, ce n'est pas une chose qu'on découvre avec Jésus, ce n'est pas un concept apparu avec Jésus. Point n'était besoin d'avoir connu la chute et la rédemption pour s'entendre appelé à placer Dieu au sommet de nos vies. Cet appel était déjà adressé à Adam, et tout le reste, le jardin d'Éden, les arbres, les fruits, lui étaient donnés par surcroît. Cet appel a ensuite été adressé à Abraham, à Moïse, et à tout le peuple, d'Israël par l'intermédiaire des prophètes. Cet appel a été renouvelé par Jésus à ses disciples et aux foules venues l'écouter. Comme il le leur avait promis avant de s'en aller, cet appel a été prêché aux extrémités de la terre. Et cet appel a franchi les siècles pour être entendu par nous encore aujourd'hui. Comme nous le disions, si cet appel part bien du problème très concret et toujours d'actualité, l'asservissement humain à la richesse et à l'argent, il s'étend bien au-delà. Bien entendu, le mot trésor a un sens premier, si parlant, que nous voyons tout de suite où Jésus veut nous emmener. Et si un doute subsistait encore, les illustrations et les paraboles qu'il nous donne ici lèvent toute ambiguïté. Et un peu plus loin, il dit aussi, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Mais, et sans prendre à la légère son sens premier, nous pouvons aussi nous interroger sur le ou les trésors, les autres trésors que nous chéririons, d'une manière propre à détrôner le d'abord qui devrait régner. Parce que voilà, Jésus nous dit là que notre cœur se trouve pris par des préoccupations qui rendront plus terne la relation que nous avons avec lui. Et un moyen concret de se livrer à cet examen sur où on en est par rapport à ce d'abord, c'est de jeter un regard impitoyable sur notre emploi du temps. Dans un de mes emplois précédents, lorsque nous avions répondu trois fois à notre chef la question, lorsqu'il nous demandait où en était ce dossier, parce qu'on avait répondu trois fois, je n'ai pas eu le temps, il nous répondait, on a toujours le temps de faire ce qu'on juge important. Et je vous assure qu'on en est arrivé à compter le nombre de fois qu'on avait dit, j'ai pas eu le temps, avant de faire cette réponse. Et au-delà du côté, bien sûr, un peu pinçant hein, de la remarque et un peu lapidaire, j'ai quand même gardé cette expérience, le réflexe de mesurer l'importance effective des choses qui font ma vie à l'aune du temps dont je les gratifie ou au contraire dont je les prive. Alors oui, si nous disons le royaume de Dieu d'abord, alors comment ça se traduit concrètement dans mon emploi du temps? Quelles sont les choses, pas forcément mauvaises, qui lui font une concurrence déloyale? Quant aux choses mauvaises, n'en parlons pas. Je ne sais pas si vous l'avez su cette semaine, mais Miss Univers est française cette année. Je ne sais pas quand on remonte la dernière fois qu'une Française a été élue Miss Univers, la dernière fois que cet honneur échoit à une représentante de notre pays, et je vous avoue ne pas suivre ça de très près. Mais interrogée cette semaine au cours d'un journal télévisé, elle a eu une parole que j'ai trouvée intéressante. La journaliste l'a fait parler sur la couronne qu'elle avait eue à porter après son élection à la fin de la cérémonie. Et elle a décrit cette couronne comme lourde et inconfortable. Mais elle a ajouté, c'est quand même une douleur qui fait du bien. Et il est indéniable que nous tenir ici nous prive, surtout aujourd'hui, d'une bonne grasse matinée sous la couette. Et plus encore aujourd'hui que la nuit a été amputée d'une heure. Et il est indéniable que consacrer à l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur, une partie non négligeable de notre revenu, si durement gagnée, peut restreindre quelque peu le financement de certains loisirs quand ce n'est pas du nécessaire. Mais Miss Univers, elle dit que porter la couronne, et on peut imaginer les privations auxquelles elle a dû consentir pour parvenir à ça, c'est quand même une douleur qui fait du bien. Et sans aller jusqu'à faire la comparaison avec la couronne indestructible, ni inconfortable, ni trop lourde, dont Paul parle aux Corinthiens, et qui nous est promise dans le royaume de Dieu, reconnaissons tout de même que tout ce que nous recevons déjà aujourd'hui, de bien en retour des efforts que nous consentons. La vie chrétienne n'est pas que sacrifice et privation, si nous savons considérer, tout au moins, comme une valeur, le fait de nous tenir et de fraterniser ensemble devant Dieu, d'entretenir avec lui une relation père-fils étroite. Nous savons considérer comme une valeur le fait de voir des personnes venir à Jésus, marcher en nouveauté de vie. Et enfin, si nous savons considérer comme une valeur l'avancement du royaume de Dieu. Porter la couronne est peut-être un peu inconfortable, parfois pesant, tant que nous sommes sur cette terre, mais ne pas la porter serait pire encore. Lorsque nous avons repris cette parole, là où sera ton cœur, ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lors de notre parcours, bâtir sur de solides, je ne peux pas dire que j'ai nagé dans le bonheur hein, à l'entendre, ni je ne me suis pas senti affalé sur un fauteuil en pétales de rose. Pas vraiment. Mais une petite piqûre de rappel, de temps en temps, permet quand même de pérenniser la vaccination. Prêcher sur notre rapport à l'argent, aux richesses, aux biens et à la sécurité matérielle, c'est un peu du réchauffé hein, dans la tradition chrétienne. Et pour tout dire, peut-être un peu bas de gamme dans l'échelle des valeurs chrétiennes. Et d'autant plus si nous avons déjà un certain parcours derrière nous avec le Seigneur. Nous aimerions croire que nous avons réglé cette question depuis longtemps et que les sujets auxquels nous sommes aux prises aujourd'hui sont beaucoup moins terre-à-terre que cette vieille et vague disposition que nous avions autrefois dans la recherche d'un profit immédiat ou dans, au contraire, l'accumulation de biens en vue de l'avenir pour nous forger une sécurité dans les biens matériels. Seulement voilà, ni Jésus ni les apôtres ne font l'impasse sur le sujet. Et Paul enjoint même Timothée, donc, qui prendra la suite après lui, qui a déjà pris la suite de son vivant, mais qui perpétuera son travail, il enjoint Timothée à perpétuer cet enseignement. « Aux riches de ce monde, lui dit-il, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. » Ni ici, ni dans la bouche de Jésus, n'est expressément recommandé de ne pas accumuler de trésors, mais bien au contraire, de bien choisir le trésor que nous voulons constituer. Car, rappelons-le, là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Si notre cœur, nous tenons à notre cœur, alors nous serons sensibles à l'écrin sur lequel nous voulons le poser. Ce passage n'est pas le seul où Jésus associe le cœur et le trésor. Toujours dans Luc, au chapitre 6, nous trouvons le verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Ce verset que nous venons de lire, ainsi que son contexte, que nous avons traité au cours du parcours Bâtir sur du solide, inverse en quelque sorte le sens de la circulation. Je m'explique. Si notre passage précédent attirait notre attention sur le trésor que nous constituons et dont notre cœur va s'imprégner, celui-ci nous dit que les choses ne vont pas en rester là. À un moment, ça va déborder. Et ce qui en sortira sera exactement à l'image de ce que nous y aurons mis. Les gens préoccupés par l'argent parleront de leur placement financier. Les gens préoccupés par la réussite vanteront les mérites de tel ou tel entrepreneur, et surtout la leur. Les gens préoccupés par les vacances seront intarissables sur leur dernière croisière en Grèce. Les gens préoccupés par le sort éternel de tous ceux dont je viens de parler parleront d'abord du royaume de Dieu. Lors de notre dernier week-end d'église, nous avons pris conscience de l'importance de définir nos valeurs. En groupe de maison, nous avons pris le temps de réfléchir aux valeurs qui font notre identité. En quelque sorte, la nature du trésor dans lequel nous voulons investir pour le cœur, pour que le cœur de notre église en déborde. Je sais que ça prend un peu de temps pour vous restituer tout ça. Il y a aussi le projet immobilier, les cultes ouverts à perfectionner. Un peu de patience, ça va venir. Mais si nous voulons prolonger l'analogie, l'Église, c'est une accumulation de personnes Et donc, en quelque sorte, notre trésor, un peu notre trésor terrestre, sachant que notre trésor céleste, c'est Jésus, bien sûr. Et donc, notre contribution à ce trésor temporel, temporaire, que constitue notre Église, enfin, temporaire, pas tant que ça. C'est quand même frappant de constater que, dans certains cas, certaines choses terrestres, nous en faisons peu de cas, soi-disant parce qu'elles sont temporaires. Il est assez remarquable aussi de constater combien de choses éternelles dont l'Église fait partie, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, sont déterminées par toutes ces choses que nous qualifions de temporaires. Nos choix dans diverses situations, notre regard sur les choses ou sur nous-mêmes, ou comme nous l'avons vu, la nature du trésor que nous amassons jour après jour. Bref, je disais donc, notre contribution personnelle aux valeurs de l'Église ne peut pas être de nature totalement divergente avec celle que nous attendons de l'Église dans sa globalité. Et par la même analogie, l'Église débordera des valeurs des chrétiens qui la constitueront, eux-mêmes débordant des valeurs dans lesquelles leur cœur baignera. J'ai du mal à imaginer une Église pleine d'amour, peuplée d'individus égoïstes. Notre responsabilité porte donc sur nous-mêmes, mais bien sûr au-delà de nous-mêmes. Et ce matin, je voudrais vous laisser avec une dernière pensée qui associe encore le trésor et le cœur. Et nous la trouvons dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, et les versets 6 et 7. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a fait aussi briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Je vous propose de chanter le chant « Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor ».